Abdul Razak Idrissa. Précisons également que les organisations humanitaires subissent également l'impact des sanctions. Les déplacements ne sont plus possibles et les fonds pas disponibles au niveau des banques pour déployer certaines activités. Pour ce débat, nos invités, Nourdine Haruna Abdou, responsable pays de l'Institut des États-Unis pour la paix, l'UCIP Niger. Nous avons également de Dakar Fadouba Kondé, professeur en sciences politiques, information et communication. Du Bénin, Romaric Lucien Badoussi, docteur en sciences politiques et spécialiste de la CDAO. Merci à vous de nous rejoindre, monsieur. Vous allez nous aider à comprendre la complexité de l'utilisation des sanctions après un coup d'État. Tout d'abord, quels sont les objectifs généralement poursuivis à travers l'imposition de sanctions? Est-ce l'isolation politique qui est recherchée ou la pression économique? D'abord vous, monsieur Badoussi.
Les sanctions visent à amener les populations justement à se désolidariser de ceux qui ont pris le pouvoir par les armes. Je crois que l'été visé est fait en sorte que les actes d'action amènent les populations nigériennes ou maliennes ou à exercer une forte pression sur leurs dirigeants de circonstance afin que ces derniers lâchent une lettre et aillent dans le sens voulu par l'organisation.
Donc amener la population à se désolidariser des auteurs des coups d'État, c'est votre avis, M. Badoussi, M. Kondé, vous partagez cet avis?
Oui, bonjour, je partage cet avis, sauf que je vais quand même faire un petit peu la part des choses. Parce que nous connaissons ce que sont les objectifs, mais aussi il y a la finalité. Il faut dissocier les deux, objectifs et finalités. Quels sont les objectifs, pour quelle finalité? Et de ce fait, ces sanctions, moi je pense qu'on aurait dû avoir des actions de prévention avec une instance comme la CDAO, au lieu de faire ce qu'on appelle le pompier, faire le pompier à chaque fois. Parce que faire le pompier à chaque fois, je sais pas si ça peut régler effectivement, si ça peut être vraiment efficace. Donc pour cette approche, je m'arrête là. Si vous voulez, après, on peut approfondir. Hein, il faut dissocier finalité, objectif. Et aussi, il faut dissocier aussi la prévention et faire le pompier, d'accord? Et faire le pompier parce que la CDAO, c'est une grande instance, hein, ils sont très bien organisés, ils peuvent faire de la prévention, c'est-à-dire ils peuvent se rapprocher des États membres, des pays concernés pour gérer, je dirais pas gérer, mais assister la bonne gouvernance pour ne pas qu'on tombe toujours dans des problèmes cruciaux. Hein. Il ne faut pas attendre que les choses soient complètement non maîtrisables pour essayer maintenant de régler la situation. Hein. Dans ce cas-là, dès le départ, on a tout faux. Hein. Dès le départ, quand on fait le pompier, dès le départ, on a tout faux.
Nous allons revenir sur les alternatives aux sanctions. Exactement, dans la deuxième partie de cette édition. D'abord, monsieur Vaud, Nourdine, pression économique, isolation politique, quels sont les objectifs recherchés, selon vous, par les sanctions? On a du mal à vous entendre, monsieur Haruna Abdou. Toujours pas, on va poursuivre avec la deuxième question et vous revenir dans...
Voilà. Je suis d'accord avec ce que mes prédécesseurs ont développé. Effectivement, l'objectif pour moi, à mon sens, était d'abord de rendre la situation beaucoup plus difficile pour désolidariser la population au putsch, mais aussi de les isoler. Et aussi, quelque part, essayer de rendre la gestion du pays assez impossible, puisqu'en isolant la junte au pouvoir, donc ça veut dire qu'ils ne seront pas à mesure d'apporter des réponses aux préoccupations et aux attentes des populations. Alors, mais il faut aussi, à ce niveau, souligner que ces menaces-là, elles sont à partie appliquées, puisque c'est des menaces qui ne sont pas unanimement acceptées et respectées par les pays de la CDAO, et donc du coup, les putschistes arrivent à avoir des alternatives qui font en sorte que ces menaces-là peuvent ne pas être ressenties véritablement. Et aussi, de l'autre côté, l'objectif qui est visé, je crois qu'il trouve souvent un effet contraire, puisque ces sanctions-là, surtout de la façon dont elles ont été faites de manière absolue, dans un instant, en même temps, je veux dire. Donc, on fait en sorte que la population développe du coup un certain sentiment de patriotisme et de ralliement à la junte. Donc, ça produit l'effet contraire. Aussi, de l'autre côté, il faut se dire que quand même, nous sommes dans un contexte où la communication joue un rôle assez important dans cette guerre-là. Alors, il ne suffit pas seulement de prendre des sanctions contre le pays, il faut savoir communiquer sur ces sanctions-là pour qu'elles soient très bien appréhendées par la population, surtout qui, si elle ne comprend pas les enjeux de ces sanctions-là, vont apporter un soutien et vont accepter de souffrir et donc de développer une certaine résilience. Et au Niger, la junte a aussi fait une très bonne communication pour expliquer que ces sanctions-là, vu leur nature, sont beaucoup plus orientées vers les populations, alors que les populations, au moment où ils avaient le plus besoin de
Vous l'avez dit, le scénario du Niger n'est pas le premier hein, dans le Sahel. On avait cité le Mali et le Burkina Faso qui ont aussi connu des coups d'État et ont eu à faire face à des sanctions du bloc régional. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des leçons tirées de ces crises, que ce soit du côté des putschistes pour faire face aux sanctions ou du côté de la CEDEAO pour mieux adapter ces sanctions à la situation, Monsieur Badoussi?
Burkina, Mali, on constate que les taux de recherche n'est pas vraiment atteint, puisque ces jeunes qui l'ont déjà en place et jouissent encore d'une réelle popularité, jouissent du soutien des populations. Et telle sorte que, bon, aujourd'hui, on se demande, l'un des prédécesseurs, l'un de mes co-débatteurs a dit tout à l'heure, que en définitive, les sanctions ne produisent d'effet que sur les populations et rendent davantage la situation sociale critique. Donc, je crois que la circonstance est telle que nous avons plusieurs coups d'État dans la même période, qui bien que tous ces putschistes-là font en quelque sorte une communauté de destin, ils se soutiennent, ils savent que la CEDEAO elle-même. À son sein, il n'y a pas la grande sérénité parce que les différents États n'arrivent pas toujours à accorder leur violon. Et tout cela les renforce. En plus de cela, il y a la géopolitique internationale où de nouveaux acteurs comme la Russie, la Chine convoitent de se positionner sur le continent africain et en l'occurrence dans cette sous-région-là. Donc je crois que tous ces éléments mis bout à bout rendent difficile l'atteinte des objectifs fixé à faire sanction. Vous avez vu qu'en 2012, les sanctions ont produit un effet immédiat sur Mamadou Sarogo, qui a lâché de l'Est. Mais aujourd'hui, un certain nombre de facteurs leur rend la possibilité de conforter leur position, de radicaliser leur position. Et nous ne voulons pas que la CEDEAO elle-même a un passif extrêmement surchargé. Vous savez que par le passé, elle n'a jamais réussi à empêcher certaines entorses faites à la démocratie au sein de cet État membre. Là, je fais référence au troisième mandat que l'on a observé dans un certain nombre de pays. Donc tout ça fait que la CEDEAO aujourd'hui est presque vomie par les populations. Et comme ça a pris de position, se retrouve en conférence avec celle de la France aussi, là ne rend pas les choses faciles parce que la France. Bien entendu, à cause de pas passer pour une connexion et puis bon, de néocolonialisme, la France aujourd'hui est totalement en déliquescence au sein de l'opinion publique. Donc, tous ces événements ne facilitent pas ne créent pas les conditions favorables à la tête des objectifs des sanctions.
Professeur Condé, est-ce qu'on peut parler de sanctions taillées sur mesure ou bien de leçons apprises dans cette situation?
justement, sanctions taillées sur mesure, ça n'existait pas. Et puis, je reviens à votre question, est-ce qu'ils ont tiré des leçons des précédentes? Moi, je dirais plutôt que non, parce que nous constatons les mêmes amalgames, hein, les mêmes amalgames, c'est-à-dire que on fait pas de différence entre les pays, on fait pas de différence entre les victimes, les coupables, les putschistes, on fait un amalgame à chaque fois, c'est la même chose, hein. Donc de ce côté-là, moi je vois aucune différence et je vois aucune action taillée sur mesure, dans la mesure où il y a un amalgame. Et en ce qui concerne justement la communication, il y a un des invités qui en a parlé, qui est très, très important. Voilà, M. Nourdine de Niger qui en a parlé, et c'est très très important. Pourquoi c'est très très important? Parce que c'est ça qui entraîne le sentiment d'injustice. Hein? Et ce sentiment d'injustice, c'est un obstacle très important pour les sanctions, parce que tout simplement, la population ne comprend pas pourquoi on les sanctionne, on les fait souffrir autant, et même plus que ce qu'ils devraient l'être. Et de ce fait, ce sentiment d'injustice, à part ce sentiment d'injustice aussi, je vais parler de ce qu'on appelle la résilience. La résilience est devenue à la mode depuis quelques années, mais l'Africain a toujours été résilient. C'est-à-dire que l'Africain se bat toujours pour son quotidien. Enfin, une grande partie se bat et a l'habitude de se battre. Et même on parle de coupures d'électricité. Même avant les sanctions, il y avait des coupures d'électricité dans certaines parties du Niger. Et donc, ils ont l'habitude de se battre. Et c'est pas comme la civilisation européenne où quand il y a une petite obscurité ou quand on enlève tout ce qui est Internet, ils deviennent complètement dépaysés. En Afrique, ils ont l'habitude de se battre, de faire face aux difficultés quotidiennes de la vie. Donc, tout ceci, oui.
Alors, j'allais passer à Monsieur Nourdine du Niger pour lui demander. Vous avez parlé de la communication des putschistes au Niger, et tout à l'heure, Monsieur Badoussi a noté une certaine solidarité entre les putschistes dans le Sahel d'une manière générale. Est-ce que vous pensez qu'ils sont mieux outillés, eux? Ils ont appris des leçons de la crise précédente aujourd'hui pour faire face aux sanctions de la CEDEAO?
À cette question de savoir entre la CEDEAO et les putschistes qui a le plus tiré les leçons des expériences précédentes, je crois que les putschistes ont beaucoup plus tiré les leçons. Sinon, yeah. Quand on regarde de la manière dont la CEDEAO est en train de faire des choses, ça ressemble à des choses assez mécaniques, souvent pas réfléchies, et surtout pour le Niger quand ils ont fait des trucs où ils ont tout mis. Donc ce n'est pas du tout taillé sur mesure, puisque vous aurez dû comprendre qu'il fallait faire la distinction entre les acteurs au niveau national pour orienter les sanctions. Ils ont fait des sanctions globales et qui ont fait en sorte que les gens se sont sentis tous concernés et contre. Mais les putschistes, quant à leur part, ils ont tiré l'expérience de ce qui s'est passé au Mali, de ce qui s'est passé au Burkina. Et donc, ils ont essayé très tôt de se positionner et de communiquer. Aujourd'hui, quand vous regardez, je prends le cas du Niger, ils sont à leur 28e communiqué. Donc, ils communiquent régulièrement avec leur population, mais aussi ils informent la population sur les actions qu'ils sont en train de mener pour trouver d'alternatives. Donc, ils ont tiré les leçons. Ils savent que dès qu'il y a coup, ces sanctions vont survenir. Et donc, très rapidement, il faut essayer de chercher d'autres voies qui vont nous permettre d'atténuer les ressentis de ces sanctions-là sur la population. Donc, pour ma part, tirer les leçons de ces sanctions qui traitent. Alors, et au niveau de la CEDEAO, je crois que pour moi, il faut beaucoup plus axer la réflexion vers la prévention, puisque dans tous les cas, tout ce que nous avons vu au Sahel, une fois que le coup est consommé à un certain niveau, il devient irrévocable. Donc, il faut plutôt réfléchir sur des mesures qui vont empêcher. Puisque, de toute façon,
rapidement, on va faire un tour sur Internet pour voir ce que nos téléspectateurs pensent de ce thème des sanctions dans la résolution d'une crise. Je vous propose quelques commentaires de nos téléspectateurs. Archeduc Théodore de N'Djamena au Tchad qui nous dit que les sanctions de la CEDEAO ne sont que des poids lourds et impopulaires sur les peuples et non sur les dirigeants au pouvoir, puisque cette organisation est à la solde, selon lui, des colons et n'a jamais été efficace dans la lutte
lutte contre les attaques djihadistes, le chômage et l'immigration clandestine. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan en Côte d'Ivoire nous dit que les sanctions de la CEDEAO perdent en efficacité parce que l'organisation elle-même manque de crédibilité. La méthode de résolution des crises, selon lui, pose problème car elle est à géométrie variable. Quand les sanctions sont très sévères, comme c'est le cas au Niger, elles sont facilement contournables par la population. Le bloc régional gagnerait à plus s'abonner au dialogue qu'aux sanctions qui semblent le caractériser. Du côté de N'Djamena Lagdasek, les sanctions économiques de la CEDEAO impactent beaucoup plus négativement sur les populations que les poutistes, car ces derniers contrôlent les fonds de l'État et ne sont nullement inquiétés par cet embargo. En fait, pour être plus dissuasif, selon lui, la CEDEAO devrait sanctionner toute forme d'usurpation de pouvoir, aussi bien pour les présidents en exercice que ceux qui s'emparent du pouvoir. Vous suivez Washington Forum, ça se passe suivi au Afrique, on se retrouve juste après la pause.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Bienvenue si vous nous rejoignez, Washington Forum sur VOA Afrique. Nous parlons de l'efficacité ou non des sanctions imposées à un État dans un contexte de crise avec nos invités. Nourdine Haruna Abdo, responsable pays de l'Institut des États-Unis pour la paix, UCIP Niger. Fadou Bakonde, professeur en sciences politiques au Sénégal. Et Romaric Lucien Badoussi, docteur en sciences politiques et spécialiste de la CEDEAO qui est avec nous depuis le Bénin. On a exploré la complexité de l'utilisation des sanctions après un coup d'État et vu aussi l'impact sur les populations des pays concernés. À présent, quelle alternative possible aux sanctions pour faire pression sur les gouvernements sans nuire aux populations? D'abord, vous, M. Badoussi.
Je crois que l'alternative, comme actuellement, serait le dialogue. Mais on se rend compte que la jeune elle-même n'est pas très disposée, elle est plutôt dans la logique de s'installer plus ou moins durablement au pouvoir. Maintenant, ce qui nous fatigue beaucoup la tête, c'est que les acteurs politiques nigériens à l'interne sont pour la plupart dans une espèce d'unanimisme. Le camp Bazoum, je ne sais pas si elle est privée d'espace d'expression, en tout cas, toujours est-il que tant que la junte n'aura pas une pression en interne, il sera compliqué de pouvoir l'amener à modifier sa position. Parce qu'elles se sont toujours confrontées par la plus populaire intention. Mais quoi qu'on dise, je crois que le dialogue sera la meilleure alternative.
Le dialogue comme alternative pour vous, M. Badoussi. Professeur Condé, comment faire pression sur les gouvernements poutistes sans pour autant faire subir ces sanctions aux populations civiles?
Très bien. Moi je pense que dans tout ça, il faut regarder l'intérêt général. D'accord? On considère d'abord l'intérêt général, on cherche une solution pour l'intérêt général. C'est-à-dire que, bon, une personne, quoi qu'elle soit importante ou bien les intérêts des grandes puissances ou bien les intérêts des uns et des autres, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'intérêt général. Donc, l'alternative vient du dialogue pour essayer comment on va sauvegarder cet intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour ne pas que la population subisse des souffrances alors qu'elle n'y est pour rien. Et au contraire, d'ailleurs, la population aurait souhaité avoir un gouvernement qui a une bonne gouvernance, qui fait son mandat, et puis on refait d'autres élections, etc., etc. C'est pas le cas. Donc, il ne faut plus qu'ils souffrent encore davantage de ce problème qui est récurrent. Et c'est aussi être juste, hein, éviter l'injustice. C'est-à-dire que il faut aussi faire la différence entre les différents coups d'État. Parce que on dit que bon, coup d'État militaire, mais nous savons qu'il y a des coups d'État institutionnels, des coups d'État électoraux, etc. Il faut se baser sur toutes ces expériences-là pour avoir une sortie. On peut prendre par exemple l'exemple du Mali. Au départ, avec le coup d'État, ils ont instauré une entente pour organiser par les militaires une élection après un an, deux ans, etc. Donc on peut imaginer tout ça, mais il ne faut pas que la population souffre gratuitement à chaque fois de ces événements. Voilà.
Donc le dialogue, privilégier l'intérêt général. Monsieur Haruna Abdo, est-ce que selon vous, au lieu de sanctions économiques générales, serait-il plus efficace de cibler spécifiquement les responsables de ces coups d'État, et comment pourrait-il fonctionner selon vous?
Alors, des sanctions, mais si elles ciblent spécifiquement le responsable des coups d'État, je crois qu'elles auront peut-être les mérites de ne pas pousser la population à être solidaire à ces pistes-là. Alors, mais permettez-moi d'abord de soulever une situation, un cas, c'est que presque tous les cas les coups d'État qui sont intervenus, les putschistes, ils ont surfé sur la mauvaise gouvernance, sur la corruption et tout ça là. Et donc, quand il vient avec le discours d'apporter des solutions, ça rend difficile d'isoler ces genres de personnes. Pour moi, la solution, les alternatives qu'il faille développer, c'est d'avoir des institutions démocratiques assez fortes, de travailler à apporter des réponses aux préoccupations et aux besoins de ces communautés-là. Cela pourrait être des alternatives. Et d'avoir une certaine union au niveau de la communauté internationale pour qu'ensemble et de manière cohérente et synergique, essayer de développer ou de mettre en place des mécanismes de dialogue qui vont permettre ensemble. Puisque le problème, c'est que tant qu'il y a une certaine bipolarisation des partenaires vers lesquels ces petites personnes qui ont des voix qui sont quelque peu dissidentes, il va de soi à ce que toutes les initiatives qui vont être prises risquent de trouver une réponse et de ne pas fonctionner. Donc, je crois que l'alternative au niveau de la CEDEAO, c'est de travailler à consolider les opinions pour faire en sorte que la position au sein de la CEDEAO soit unanime. De manière générale, la communauté internationale ait une position unanime et cette position doit être une position qui apporte des réponses aux préoccupations des communautés et déposer un mécanisme de dialogue avec les putschistes. Mais pour moi aussi, il faudrait, à partir d'un coup d'État, une fois qu'il intervient, travailler pour qu'il ne se répète pas. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Le problème, c'est que ce sont les putschistes qui élaborent les constitutions. On dit que toutes les constitutions ont été élaborées par des putschistes. Et donc, du coup, ils se sont amnistiés et les institutions qui sont souvent ici de ces constitutions-là ne sont pas assez fortes. Et donc là, il faut travailler au niveau interne pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la vie socio-économique du pays pour qu'ils travaillent à avoir une constitution qui va accoucher des institutions assez fortes et mettre, je crois, des garde-fous pour que des dispositions soient prises à l'avenir si quelqu'un fait un coup d'État, que déjà la Constitution prévoit et prend en charge ces cas-là et définit la manière par laquelle les pouvoirs peuvent être exercer après un coup d'État.
Merci beaucoup. Le dialogue, privilégier l'intérêt général, avoir des institutions fortes et travailler au niveau national. Merci pour vos contributions. C'est la fin de ce Washington Forum. Alexandrine Paul-Ognon était à la présentation. Merci à nos invités, à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent. Washington Forum, le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h temps universel, suivez-vous Afrique et suivez-vous Afrique.com en rediffusion samedi et dimanche. Bye bye.